Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. Et puis comme chaque soir à partir de 19h15, le Club des Idées avec la carte blanche d'Alexandre Malafaille. Coup de griffe ce soir contre la privation de nos libertés. 19h20, comment garder la positive attitude en cette période de confinement et de crise sanitaire? Plus de bises, plus de poignées de main et des chiffres sur la santé morale des Français qui inquiètent. Les dépressions bondissent, notamment chez les plus jeunes, on en parlera. Alors comment faire face? On vous donnera toutes les clés pour garder le moral. D'abord le journal avec Isabelle Millet. 19h, vous êtes bien sur Europe 1.
Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020.
Protéger les personnes âgées sans les isoler. Les protocoles seront encore renforcés dans les jours à venir dans les EHPAD. Dépistage hebdomadaire systématique pour tous les personnels alors que la situation reste fragile.
Un reconfinement qui pèse sur l'économie mais aussi sur le moral. Les conséquences psychologiques doivent être prises très au sérieux.
Les sites de e-commerce pris d'assaut aujourd'hui avant même le Black Friday. Tout ça à cause d'une console de jeu.
Et je vois là qu'elle, la loi sur la sécurité globale face au tollé entourant l'article 24. Le ministre de l'Intérieur calme le jeu et tente d'arrondir les angles.
Le Japon et l'Australie unissent leurs forces contre la Chine. Ils ont conclu un nouveau pacte de défense, loin d'être anodin, nous dira Didier François. Et puis des chercheurs enquêtent des odeurs du passé ou comment remonter le temps avec son nez.
C'est un beau teasing, j'ai hâte de découvrir le reportage qui va avec. La météo avec Anissa, agité dans le sud demain, chère Anissa.
Oui, avec du vent fort en bord de Méditerranée. Il a soufflé fort aujourd'hui, il va souffler fort cette nuit et encore demain matin. Une dépression sur l'île de Beauté également au programme. Ailleurs, des conditions anticycloniques et des températures qui continuent de baisser. C'est le programme de ce vendredi et je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
D'abord donc les dernières infos concernant l'épidémie avec le point presse ce soir du ministre de la Santé, Olivier Véran.
La tension hospitalière reste forte sur le territoire. Un patient admis en réanimation toutes les 4 minutes. Malgré tout, les indicateurs épidémiologiques s'améliorent et le virus circule moins vite.
Quant à la situation dans les EHPAD, la ministre déléguée chargée de l'autonomie précise que ça va mieux que lors de la première vague. À l'époque, un établissement sur deux avait été touché. Aujourd'hui, Victor Dolande, les chiffres sont plus rassurants, mais ça reste quand même fragile.
Oui, actuellement, 1600 EHPAD sont touchés par un cas de Covid ou plus, qui représente plus d'un établissement sur 5. Les régions les plus concernées sont la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Hauts-de-France. La mortalité reste elle aussi préoccupante, 163 décès par jour en moyenne sur la dernière semaine écoulée. Mais depuis le premier confinement, il y a quand même du mieux. Les personnels qui travaillent dans ces EHPAD sont mieux armés. Ils connaissent mieux la maladie et sensibilisent davantage les personnes âgées. La ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a rappelé ensuite un deuxième risque dans ces établissements, l'isolement.
Nous savons qu'avec le risque sanitaire, l'isolement est un deuxième risque majeur. Et c'est celui que d'ailleurs vous redoutez parfois le plus, que vous viviez en établissement ou à domicile. Le président a dit qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Je me permets d'ajouter qu'il est également dur d'avoir 4 fois 20 ans en 2020. Pour protéger sans isoler, selon les mots du président de la République, nous avons tout de suite fait le choix de ne pas suspendre les visites des proches.
Dans les prochains jours, le gouvernement va également renforcer les protocoles pour faire baisser les contaminations dans les EHPAD. Les personnels seront testés toutes les semaines. Le gouvernement a d'ailleurs commandé 1 600 000 tests antigéniques pour approvisionner les établissements. Enfin, concernant les proches, ils seront invités à se faire tester 72 heures avant leur visite, un test PCR ou un test antigénique dans la journée. Mais ce n'est pas obligatoire, ça reste une simple recommandation.
Précision de Victor Dolande du service Société d'Europe 1. Merci Victor.
Cette crise du Covid engendre, on le sait, des dégâts économiques considérables, dégâts psychologiques aussi qu'il ne faut pas négliger.
Nous voulons éviter une troisième vague, celle de la santé mentale, dit Olivier Véran. Santé mentale qui s'est dégradée, hein,
oui,
c'est vrai ce soir.
C'est vrai que les médecins constatent une augmentation importante des états dépressifs et le problème, c'est que ça risque de durer.
Et tout ça, c'est pris très au sérieux par les professionnels de santé, comme vous l'avez constaté, Stéphane Place, à l'hôpital psychiatrique Charles Perrins de Bordeaux.
Oui, dès l'annonce du reconfinement, ici à l'hôpital psychiatrique Charles Perrin, se sont présentées des personnes en détresse. Aujourd'hui, le taux d'occupation des lits de l'établissement que dirige Thierry Bier est de 100%.
Cette lame de fond, elle touche nos patients traditionnels de psychiatrie, mais aussi, on s'aperçoit qu'il y a de nouvelles personnes et qui souffrent de syndromes anxieux, dépressifs.
D'où la réactivation notamment d'un numéro vert de soutien psychologique.
Comité Psy 33, bonjour.
Chef du pôle urgence psychiatrique, le docteur Chantal Berger insiste sur la nécessité d'aller au-devant de ceux qui pourraient être affectés psychologiquement par cette crise.
Je fais appel aux représentants de l'entrepreneuriat, de la chambre du commerce et de l'industrie, la chambre de l'artisanat, même effectivement les commerçants et les restaurateurs, des professions qui sont impactées et vont l'être lourdement. Et moi, ce que je tiens à leur dire, c'est qu'on est là aussi pour eux, finalement, en essayant de concevoir peut-être un accès à la consultation ou aux soins psychiques qui soit facilitant.
Ne pas attendre pour parler, insiste le professeur Bruno Aouizrat.
Il vaut mieux parfois les discuter de ça plutôt que d'attendre et dans ce cas-là de souffrir cette fois-ci vraiment de pathologie. Si le matin on se réveille très anxieux, on dort mal, faut surtout pas attendre.
Et ne pas hésiter à consulter déjà pour commencer son médecin généraliste.
Le reportage de Stéphane Place à Bordeaux et le numéro vert de cette cellule psy dont il vous parlait, c'est le 0800 71 08 90.
Et restez avec nous car on en parle dans 15 minutes dans le grand débat du Club des idées et on vous donnera toutes les clés pour retrouver, si tant est que ce soit possible, la positive attitude. Mais oui, nous on y croit. À tout à l'heure donc pour le débat. Le pataquès autour du Black Friday, Isabelle.
Les acteurs de la grande distribution, du commerce et du e-commerce auront demain un nouvel échange avec Bruno Le Maire. Le ministre leur demande, vous le savez, de décaler d'une semaine cette opération promotionnelle.
Plusieurs enseignes comme Carrefour sont d'accord. Leclerc de son côté dit qu'il se ralliera à une démarche si elle est collective.
Et on va suivre tout ça donc demain. Ce qui est sûr, c'est que les Français sont déjà dans les starting blocks pour les achats de Noël et sans attendre, eh bien, il y en a qui ont déjà fait flamber la carte bleue aujourd'hui.
À l'occasion de la sortie de la nouvelle console PS5 de Sony, quelques jours après sa concurrente, la Xbox Series, Clément Le Saffre, c'était la folie aujourd'hui sur tous les sites de e-commerce en France.
Oui, pour ceux qui ne l'avaient pas précommandé, en fait, la PlayStation 5 était mise en vente ce matin. Alors ça a été la ruée vers l'or puisque tout s'est passé en ligne, il n'y en avait pas en magasin. Résultat, eh bien, beaucoup de sites n'ont pas tenu entre 9h et midi, voire 14h pour certains. Impossible de se connecter sur les sites de la Fnac, Auchan, Boulanger, Cultura, Leclerc, etc. Tous affichaient un message d'erreur. J'ai essayé moi d'aller sur Auchan.fr vers 11h. J'étais dans la file d'attente en 50 millième position.
Ah oui.
Rien que ça, quand on sait qu'il s'est vendu 6 millions de PS4 en France, ça donne une idée du nombre de joueurs qui veulent la prochaine, la PS5. Mais peu, eh bien, ont réussi à l'obtenir dès aujourd'hui. Sony nous a expliqué que les stocks pour le lancement étaient très, très limités. C'est bien simple, mais il n'y en a déjà plus nulle part. Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné, ni s'il le sera. Voilà le message qu'on peut lire sur la page de la PS5 sur le site d'Amazon. En ce moment, alors je vais quand même terminer par une petite note d'espoir quand même. En vue de Noël, Sony va réapprovisionner la PS5 par petites touches ici et là. Idem pour Microsoft avec la Xbox Series. Elle aussi est en rupture de stock. Mais voilà, il y aura quand même quelques consoles pour les retardataires. Simplement, il va falloir être à l'affût.
Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que vous l'avez essayé, cette
PS5 ?
Oui,
j'ai essayé les deux. Oui, les deux valent le coup. C'est une super console. Si vous arrivez à en trouver une pour Noël, vous allez passer un bon Noël.
Bon, merci Clément Le Saffre du service Éco d'Europe 1.
Dans l'actualité également, la version glaçante de Jonathan Daval qui s'explique enfin sur les circonstances de la mort de sa femme Alexia. Il reconnaît lui avoir donné la mort. Il explique qu'il ne supportait plus ses reproches, que la colère de toutes ces années est ressortie ce jour-là, qu'il lui a frappé la tête contre le mur et qu'il l'a étranglée pour qu'elle se taise. Il reconnaît également avoir mis le feu pour effacer ses traces.
Le ministre de l'Intérieur corrige le tir sur sa loi de sécurité globale.
Il propose un amendement sur la liberté de la presse après la polémique, vous le savez, entourant le fameux article 24, article qui prévoit 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour toute personne qui diffuserait des images de policiers ou de gendarmes dans le but de porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique, Adrien Beck.
Oui, réunion d'urgence convoquée dans une demi-heure autour de Jean Castex. Malaise dans les rangs de la majorité, au Modem aussi. Cet article est mal ficelé, me confiait un ministre. En fait, là où ça coince, c'est qu'il ne consacre pas la liberté de la presse et fait craindre que des journalistes ne puissent plus diffuser des images de forces de l'ordre. Gérald Darmanin tient donc à l'amender, il l'a dit cet après-midi à l'Assemblée.
L'article 24 ne sera pas retiré, bien évidemment, mais qui sera complété, peut-être précisé. C'est-à-dire qu'évidemment, mais comme l'article 24 l'est déjà écrit, que la liberté de la presse est totale, mais peut-être faut-il l'écrire davantage parce que La liberté de la presse est un point important.
Voilà le ministre de l'Intérieur qui tente de calmer le jeu, même si certains marcheurs demandaient une suppression pure et simple de cet article litigieux. Tentative de clore une polémique alors que Gérald Darmanin suscite en plus de vives réactions depuis hier soir. Il avait proposé aux journalistes de se signaler aux autorités avant de suivre une manifestation, alors même que celle-ci se déroule sur la voie publique.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. L'enquête sur l'effondrement de deux immeubles qui avaient fait 8 morts en novembre 2018, rue d'Aubagne à Marseille. Un ancien adjoint de Jean-Claude Gaudin à la mairie et un syndic d'immeubles viennent d'être mis en examen.
19h09, la suite du journal. On part à l'étranger. L'Union européenne toujours prise en otage par la Hongrie, la Pologne et la Slovénie qui bloquent le plan de relance européen post-Covid.
Oui, ce soir, lors de leur visioconférence, les dirigeants ont brièvement évoqué le sujet, mais la Pologne et la Hongrie ont rappelé leur opposition. Info de notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry, ce sont les ambassadeurs qui vont maintenant plancher sur une éventuelle solution.
Et cette information capitale d'un point de vue stratégique, mais qui est passée un peu inaperçue, c'est vrai, le Japon et l'Australie, les deux géants du Pacifique, ont signé hier un accord de défense historique.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Cet accord, il vise en fait, Didier, à bloquer la montée en puissance de la Chine.
Absolument. Alors pour vous donner une idée de cette montée en puissance, hein, la Chine se dote tous les 4 ans d'un nombre de navires équivalent à celui de la marine française. Et cette flotte, maintenant, elle montre ses muscles dans tout le Pacifique en s'appropriant des îlots ou des récifs qu'elle transforme aussitôt en petite base aéronavale, violant toutes les règles internationales sur la liberté de navigation. C'est la raison pour laquelle l'Australie et le Japon ont décidé de désormais coordonner toutes leurs activités militaires, donc de s'assurer que leurs systèmes d'alerte et de communication sont compatibles. Ils vont aussi organiser des manœuvres conjointes, apprendre à combattre ensemble malgré les doctrines et puis des langues qui sont quand même assez différentes. Ça veut dire aussi qu'ils peuvent devoir déployer rapidement des soldats d'un pays à l'autre, ce qui les oblige à définir toute une série de procédures juridiques et puis des règles financières. Donc ce qu'on voit se mettre en place entre Canberra et Tokyo, c'est bien une alliance opérationnelle, un véritable pacte stratégique entre deux puissances régionales majeures, mais qui ont pris conscience qu'elles ne pouvaient plus résister aux ambitions militaires chinoises si elles ne s'unissaient pas.
Ce qui est d'ailleurs une véritable révolution culturelle pour le Japon, qui n'a constitutionnellement plus d'armées depuis 1945.
Absolument, donc après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, la capitulation de l'empereur, le Japon a démantelé son armée et puis l'a remplacée par de simples forces d'autodéfense. Alors seulement depuis maintenant 5 ans et la révision constitutionnelle de 2015, ces forces de défense, d'autodéfense sont autorisées à intervenir aux côtés de troupes alliées si le Japon était attaqué. Et puis surtout, elles ont très sérieusement progressé en capacité avec un budget annuel de 43 milliards d'euros, ce qui est l'équivalent du budget français de la défense. C'est donc loin d'être négligeable, d'autant que face à la Chine, le Japon, comme l'Australie, savent pouvoir compter sur un soutien indéfectible des États-Unis et voire même sur un renfort de l'Inde. Les 4 pays ont d'ailleurs mené ensemble la semaine dernière un exercice naval de grande ampleur qui préfigure ce basculement en cours de l'équilibre stratégique mondial depuis l'Europe vers la zone Indo-Pacifique.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
La première visite d'un secrétaire d'État américain au Golan et dans une colonie en Cisjordanie occupée. Mike Pompeo a profité de sa tournée d'adieu au Moyen-Orient pour ancrer l'héritage de l'administration Trump en faveur de l'État hébreu. La Syrie condamne ce soir une visite provocatrice. Et puis ce soir, si vous le voulez bien, en plus d'ouvrir grand vos oreilles, on va aussi vous demander d'ouvrir grand votre nez.
Ah, on y vient.
Voilà, et d'essayer d'avoir un petit peu d'imagination quand même. Pourquoi ? Eh bien parce que figurez-vous qu'un groupe d'historiens, d'experts en intelligence artificielle, de chimistes et de parfumeurs viennent d'annoncer qu'ils allaient recréer les odeurs que l'on trouvait en Europe du 16e au 20e siècle lors d'Autriche.
Oui, c'est ça. Quelles odeurs pouvaient sentir les soldats sur le champ de bataille de Waterloo, hormis la poudre et les canons? Quelles étaient les odeurs de la révolution industrielle? Une quarantaine de chercheurs vont travailler pendant 3 ans sur ces sujets pour raconter l'histoire du point de vue olfactif, en analysant 200 000 images et des milliers de textes historiques. Pour ces recherches, l'intelligence artificielle sera capitale. L'ordinateur sera chargé de trouver dans les textes les références aux odeurs. Et puis le travail des experts ensuite commencera, explique Raphaël Troncy, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs Eurecom, membre de ce projet.
On va travailler effectivement avec des chimistes et des entreprises qui créent des senteurs.
voire même avec des parfumeurs. Et donc, effectivement, à partir de recettes de cuisine, hein, de descriptions chimiques de ces odeurs, on va essayer d'en resynthétiser un certain nombre pour les recréer.
Le projet est financé par la Commission européenne à hauteur de 3 millions d'euros et des expériences pourraient ensuite être proposées au public dans plusieurs musées d'Europe.
Et voilà, vous avez tout compris.
Et on a hâte de sentir tout ça, ça doit être absolument passionnant. Non, ça ne vous intéresse pas, vous? Bien, gardez votre masque alors, ma chère Isabelle. À demain, même lieu, même heure, à partir de 18h, la météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce une fin de semaine mouvementée sur l'île de Beauté.
Oui, le temps est agité demain en Corse, en Haute-Corse précisément, avec des pluies soutenues, du vent fort jusqu'à 110 km/h sur le littoral, de la neige également sur les reliefs à partir de 1300 mètres. C'est vraiment une journée où il va falloir éviter au maximum de sortir demain. Sur la moitié nord du continent, demain, nous aurons des brouillards et des nuages bas qui vont se dissiper au fil des heures. Sur le massif central, les Alpes et le Jura, nous aurons quelques flocons, là aussi à partir de 1200 mètres d'altitude. Et puis dans l'après-midi, les conditions anticycloniques vont permettre au soleil de s'imposer. La journée est donc dans l'ensemble assez agréable, sauf en Bretagne et en Normandie où là le ciel est un petit peu plus couvert. Au bord de la Méditerranée, c'est grand soleil mais toujours du vent. Le Mistral et la Tramontane qui ont soufflé fort aujourd'hui et qui continuent de souffler demain. Les températures, elles continuent de baisser avec des gelées en Auvergne ou dans le Grand Est avec moins 1 Charleville-Mézières, 2 degrés à Metz, 3 à Lille, 4 à Paris demain matin, 7 à Biarritz et 10 à Nice. Et puis dans l'après-midi, seulement 7 à 18 degrés, 7 pour Saint-Etienne, 9 à Paris, 12 à Lorient et 17 à Nice sur la Côte
17
d'Azur.
17 à Nice, formidable.
Ouais, ça reste sympa.
J'aimerais habiter à Nice. Ils ont de la chance, les amis niçois. Merci Anissa.
Bonne soirée.
À demain. Dans quelques secondes, on ouvre le Club des idées avec le grand débat. Quand le confinement nous fait disjoncter, la santé mentale des Français s'est dégradée. Alors comment garder la positive attitude? Quels sont les bons conseils pour éviter de broyer du noir? On vous en parle avec nos invités. D'abord, la carte blanche du Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec ce soir l'entrepreneur et fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre Malafaille.
Bonsoir Julien.
Alors coup de griffe ce soir sur cet État qui semble vouloir, dites-vous, réguler nos vies jusque dans les moindres détails.
Ah oui, très franchement Julien, quelque chose ne tourne plus rond dans notre cher vieux pays. Quand vous pensez qu'on paye des fonctionnaires qui vont jusqu'à rédiger des décrets pour qu'on ait le droit d'acheter des sapins de Noël, pour déterminer ce qu'on peut acheter, ce qu'on ne peut pas acheter, des pyjamas, pas des pyjamas pour les enfants, qui s'intéressent à la manière dont on va gérer le Black Friday ou pas le gérer pour éviter les lâchers de Français, si je puis dire, dans les rues début décembre, tout ça est quand même assez extraordinaire. Et puis, entre nous, il y a quand même beaucoup d'arbitraire dans cette définition de ce qui est essentiel ou ce qui n'est pas essentiel. Et moi, je voudrais rappeler quand même que travailler aussi, c'est essentiel. Ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes. Alors, je crois qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est en train de basculer, si vous me permettez cette expression, dans un pays qui est devenu une espèce d'étatistan.
Oui.
Et l'étatistan français nous pose un vrai problème.
Mais on n'est pas les seuls à prendre des mesures difficiles, Alexandre.
On n'est pas les seuls, mais quand on observe ce qui se passe quand même à l'étranger, on se rend compte quand même qu'on est sur le podium, sur le top 3 et peut-être même sur la première marge des pays qui sont les plus liberticides. Et puis, au-delà de ça, on est déjà revenu dans cette carte blanche sur les incohérences, sur les intrusions dans nos vies de l'État. Et vous savez, un journal allemand a titré il n'y a pas très longtemps, quelques jours, sur l'absurdistan français. Voilà, ça veut dire quand même des choses qui sont très lourdes. Et donc cet État, cette absurdie ambiante en fait, elle n'est que la conséquence évidemment de l'étatistan dont je parle, parce que l'État pense qu'il sait tout, qu'il peut tout, et qu'en fait que la redistribution crée de la richesse.
Mais les conséquences de quoi précisément?
Alors les conséquences en fait de mots qu'on connaît bien, qu'on essaie de travailler, sur lesquels malheureusement il n'y a pas pour l'instant de solution. Un, c'est la déconnexion des élites. Voilà, tout le monde qui suit globalement cette même formation, on parle de l'ENA, mais des parcours qui sont très linéaires. Et cette absence d'expérience d'autre chose que de la haute fonction publique. Pas d'expérience de terrain. Qui a travaillé dans un bar? Qui sait ce que c'est qu'une ferme? Voilà, il y a vraiment un problème de compréhension de ce qui se passe dans la vraie vie des vrais gens. Et puis, il y a un deuxième point. C'est la concentration extrême du pouvoir au sommet. Pardon, mais aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on le rappelle. Les décisions sont prises dans le huis clos du Conseil de défense.
Oui.
Où est la démocratie? Où est le contrôle dans tout ça?
Mais il faut bien gérer cette crise tout de même, Alexandre Malafaye.
Alors évidemment, on est d'accord.
On peut pas faire un conseil citoyen de la crise sanitaire.
Non, mais entre le huis clos du Conseil de défense et puis la démocratie, il y a peut-être un équilibre à trouver. Et puis, il y a un prix de tout ça, on le sait bien. Mais surtout, il y a des prix, des conséquences, on les voit. Regardez, tout tourne au ralenti. On est en train de nous annoncer que les centrales nucléaires ne sont plus correctement entretenues parce que problème de maintenance. Donc on va avoir des coupures du courant en début d'année. Regardez ce qui se passe dans les tribunaux, dans la justice. Vous avez des chambres maintenant qui disent audience en 2023. Tandis que quand vous êtes justiciable, c'est pas tenable. Et puis entre nous, ça va au-delà de la crise sanitaire. Il y a aussi l'enjeu sécuritaire. Vous, journalistes, vous êtes concernés. Regardez ce qui va se passer. Demain, vous allez devoir demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur pour aller couvrir des manifestations. Tout devient prétexte à réduire nos libertés. À l'heure de la réalité augmentée, nos vies sont diminuées. Jusqu'où? Moi, je vous dis, Julien, à un moment donné, on va se réveiller dans le monde d'Orwell.
Bien, merci Alexandre Malafaye pour cette carte blanche.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h21 ce soir dans le Club des Idées, quand le confinement nous fait disjoncter. C'est l'un des effets notables dont on parle peu en ce moment. Comment la crise sanitaire modifie nos comportements et notre santé mentale? Les dépressions ont ainsi doublé en un mois. La santé mentale des Français s'est dégradée fortement, a dit tout à l'heure le ministre Olivier Véran. Les chiffres sont très inquiétants. Cette épidémie de Covid génère une souffrance psychologique pour beaucoup d'entre nous. Alors comment y faire face? Quels sont les bons conseils pour éviter de broyer du noir et garder une forme de positive attitude? On en parle donc ce soir avec Catherine Tourette-Turgy. Bonsoir, vous êtes experte en psychosociologie, professeure à Sorbonne Université et chercheuse au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. On en parle également avec le professeur Antoine Pellissolo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre et chef de service à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, membre de la Fondation Fondamentale. Et on en parle également avec le professeur Emmanuel Hirsch, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université Paris-Saclay et directeur de l'espace éthique de la région Île-de-France. Et je crois que vous êtes aussi l'auteur de Pandémie 2020, éthique, société, politique aux éditions du CERF, paru en octobre 2020, il y a tout juste un mois. Alors première question, peut-être pour vous, professeur Emmanuel Hirsch, est-ce que toute la population est touchée de la même manière? Est-ce que tous les Français sont touchés par ce coup de blues? Je crois que ce sont principalement les jeunes et les seniors qui en subissent en premier les conséquences.
On aura le propos du psychiatre, moi c'est plutôt l'approche éthique. On est vulnérable, c'est-à-dire ce qui caractérise cette crise, c'est la vulnérabilité et le côté indéterminé de ce qui se passe, puisque l'avenir est un peu incertain. Et donc selon effectivement sa position sociale, le contexte dans lequel on est vu, on voit à quel point les personnes très vulnérables, socialement démunies, sont plus exposées, bien sûr, parce qu'elles sont déjà vulnérables par nature à tous les risques, qui sont les risques économiques, les risques sociaux, puis les risques de contamination. Donc moi, le premier point, pour moi, caractéristique, c'est comment une situation de crise révèle nos vulnérabilités, y compris d'ailleurs dans la gouvernance.
Oui.
Parce que, effectivement, le discours politique aura tendance à être protecteur, à donner un certain nombre de repères, et même proposer des mesures qui évitent, finalement, que la pandémie prenne des proportions qui, à un moment donné, sont incontrôlables. Mais même les politiques sont vulnérables. On voit qu'ils ont fait des projections et que les projections sont précaires. Donc voilà, c'est l'environnement général qui fait qu'on se demande à qui s'en remettre. Vous voyez, il y a eu toutes les polémiques sur les scientifiques, par exemple. Ça a été aussi extrêmement déstabilisant de voir une controverse scientifique. Demain, il y aura, on l'espère, le vaccin. Est-ce qu'il sera sécurisant ou pas? C'est-à-dire, est-ce que les mesures de mise en œuvre du vaccin apporteront de la confiance? Voilà. Et je termine juste sur ce point, Julien Bugier. Je crois que derrière l'inquiétude la plus profonde, pour moi, existentielle, c'est la perte de confiance. Voilà. On est dans un moment de défiance et de crise de l'autorité. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de repères en termes de communication. Par exemple, une émission comme La Vote, elle est importante de ce point de vue-là. Communiquer, trouver des mots humains, ne pas être aussi toujours dans des discours très péjoratifs, dans les mots qu'on emploie qui tuent. Vous voyez, de dire il y a les essentiels par rapport à ceux qui ne le sont pas.
Oui.
Imaginez l'impact sur un commerçant, sur une personne qui a entrepris dans sa vie d'exister socialement et qui importe pour nous. Et on dit du jour au lendemain, il y a les essentiels et ceux qui ne sont pas. Voilà. Donc pour être générique, je dirais, je pense qu'on est précaire, vulnérable, incertain. Il faut trouver des forces.
Alors même question, professeur Antoine Pellissolo, sur le constat d'abord. C'est vrai que les chiffres, quand on les regarde froidement sur le papier, font froid dans le dos, c'est le cas de le dire. Santé publique France nous dit que le taux de dépression est passé de 10% fin septembre à 21% début novembre. Les jeunes et les précaires seraient les plus concernés, avec respectivement une hausse de 16% et de 15%. Et tout à l'heure, le ministre Olivier Véran, qui tenait sa conférence de presse, nous a dit qu'il y avait 200 000 appels à la plateforme dédiée pour les troubles psychologiques pendant cette crise du Covid. 200 000 appels par jour.
Alors,
Ces 200 000 personnes, je pense qu'elles sont sûrement représentatives de toute la population. Parce qu'il n'y a pas des personnes qui seraient complètement à l'abri. Hein. Il faut pas avoir cette illusion-là. Mmh. Mais c'est vrai que les plus fragiles, habituellement, c'est ceux qui sont isolés, précaires, malades. Et là, on le retrouve chez les jeunes, en effet, étudiants isolés, chez les personnes âgées isolées, chez les personnes malades et chez les personnes qui ont d'une manière ou d'une autre, une inquiétude sur leur avenir.
C'est inédit, un tel niveau de trouble.
Ce niveau-là, c'est-à-dire qui touche tout le monde, hein, puisque tout le monde est dans le monde entier est exposé, c'est évident que c'est inédit. Et les manifestations, d'une certaine manière, elles ne sont pas très surprenantes. Alors, quand on parle de 20% de personnes déprimées, avec les mesures qu'on a, ce sont des symptômes dépressifs. Mmh. Heureusement que ce ne sont pas toujours des dépressions majeures, graves. Mais dans tous les cas, un message qu'on peut faire passer, au-delà des besoins d'accompagnement qui sont indispensables, c'est de ne pas hésiter à consulter quand on a ces symptômes-là, parce que souvent, il y a besoin d'une aide.
Alors, question à vous, Catherine Tourette-Turgy. Quels sont les facteurs de cette grande déprime? Est-ce que c'est le manque de lien social? Est-ce que c'est l'enfermement? Est-ce que c'est la peur de la précarité? Ou est-ce que c'est tout ça un peu à la fois?
Oui, on peut dire que c'est tout ça. Puis en même temps, quand on a dit cela, on a du mal à s'y repérer. Je crois que, pour reprendre ce que disait Emmanuel, on ne peut pas gouverner de manière autoritaire un problème de danger de société. Par exemple, moi, je travaille sur la prévention. Ben, on s'aperçoit qu'on ne gagne pas de la prévention si on n'a pas d'empathie, si on n'a pas de bienveillance, si on ne fait pas confiance. Dans les études, j'ai vu que les systèmes qui font de la prévention de manière autoritaire, ben, ils obtiennent des scores, effectivement, soit de réactance, c'est-à-dire les gens se révoltent, soit de déprime, parce qu'ils se sentent impuissants. Donc, ce qu'il faut qu'on puisse saisir, c'est comment mettre en place une prévention en faisant confiance. Par exemple, il y a des études qui montrent que si vous dites à quelqu'un « le masque, c'est pour te protéger toi-même », ça ne marche pas. Mais si on dit « le masque, c'est pour protéger les autres », ça fonctionne. Mmh. Donc, il va falloir qu'on s'appuie sur la présence chez les êtres humains, en société, justement, de facteurs relationnels, de facteurs vers autrui, du prendre soin en partage.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a vu qu'il y avait un changement de communication qui va dans le sens de ce que vous dites, madame, du gouvernement. On a vu des affiches partout dans les rues, des campagnes de sensibilisation à la télévision, où il nous a été dit que le masque, c'était aussi pour protéger les autres. Donc je pense que de ce point de vue-là, le message a été compris aussi par le gouvernement. Vous restez avec nous, 19h28, on continue d'en parler avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, le Club des Idées se poursuit. Le grand débat, ce soir consacré aux chiffres très inquiétants de la santé mentale des Français qui s'est fortement dégradée. On évoquait les chiffres de Santé publique France qui montrent que le taux de dépression, par exemple, est passé de 10% fin septembre à 21% début novembre. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a d'ailleurs longuement parlé tout à l'heure lors de sa conférence de presse. Et il y a quelques jours, Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, disait à peu de choses près la même chose.
Santé publique France révèle aujourd'hui que la santé mentale des Français s'est de nouveau dégradée entre fin septembre et début novembre. On observe ainsi une augmentation importante des états dépressifs. Le nombre de personnes concernées a en effet doublé entre fin septembre et début novembre. Cette hausse est observée dans l'ensemble de la population, mais s'avère encore plus marquée chez les personnes en situation financière très difficile, les personnes ayant des antécédents de troubles psychologiques, les inactifs et les jeunes.
Professeur Antoine Pellissolo, comment est-ce qu'on sait si on est dans un état dépressif ou si un proche est dans un état dépressif ?
Alors la dépression, c'est un ensemble de dérèglements qui surviennent, moi je dis souvent, en même temps. Et c'est ça qui fait la différence entre une baisse de morale passagère qu'on a tous connue et un état dépressif maladie qui nécessite en tout cas souvent des soins.
Mais ça peut arriver d'un coup d'un seul ?
Oui, parfois, mais souvent c'est quand même assez progressif sur quelques jours au moins. Et donc c'est en même temps le sommeil qui se dérègle, l'appétit qui se dérègle, les envies surtout, les envies et le plaisir qui se dérèglent, donc un état de tristesse, des choses qui isolément ne seraient pas forcément très alarmantes, mais en même temps, ce qui fait que vous changez, vous êtes quelqu'un d'autre, et vous n'arrivez plus, à un degré variable hein, selon les cas, mais à vivre normalement. Et ça, je crois que c'est parfois caractéristique et tout le monde s'en rend compte. Et puis, dans d'autres fois, c'est un peu masqué parce qu'on essaye de se battre, on fait face, on ne veut pas s'écouter, comme on dit. Mmh. Et c'est là le problème parce que souvent, on s'use et c'est souvent physiquement aussi qu'au bout d'un certain temps, le
corps... On évoquait tout à l'heure, professeur, les facteurs qui favorisent ces dépressions. C'est encore une fois, c'est le manque de lien social, c'est la peur de la précarité et de l'avenir.
Alors,
Alors, il y a malheureusement en ce moment à la fois la peur, la peur de la maladie quand même, évidemment. Il y a aussi des gens qui sont très effrayés par le virus, évidemment, depuis des mois.
Et donc, ça a une influence sur leur état psychologique.
Pour certains, c'est un facteur de stress majeur, d'angoisse d'abord et de dépression ensuite. C'est souvent ça, malheureusement, l'enchaînement. Donc, la peur de la maladie, la peur de l'économie. Enfin, il y a des gens qui ont perdu déjà leur travail ou qui ont peur de le perdre. Donc, ça fait un deuxième facteur de stress. Et en plus de ça, il y a des facteurs en moins qui sont d'habitude des piliers de la santé mentale, santé psychique. Ce sont effectivement le lien social et toutes les occasions de divertissement qui, d'habitude, permettent de faire du sport, de sortir, d'avoir des activités de plaisir.
S'aérer.
Qui sont, malheureusement, quasiment absentes.
Mais il y a aussi eu, je me permets de dire, la violence de certaines décisions. Il y a la violence de certaines décisions. Quand on vous parle de triage, pour prendre un exemple, quand on vous parle des conditions de vie dans un établissement comme un EHPAD, même s'il y a eu des choses remarquables qui se sont faites, toutes les ruptures par rapport à vos valeurs, par rapport à vos traditions, à quoi vous êtes attaché, regardez l'impact qu'a eu le fait de ne pas pouvoir faire des obsèques, pour prendre un exemple précis, ou les conditions de la mort à l'hôpital. Donc il y a tout ce qui donne prix à notre existence, tout ce à quoi on est attaché, toutes ces valeurs qui nous permettent de résister, de lutter.
Vous êtes en train de dire, professeur, que même si on n'est pas touché d'une certaine manière directement, le contexte anxiogène
bien sûr, parce que les choix qui sont faits, et on a eu encore la chance dans notre pays qu'on a eu un discours politique qui dit on n'abandonnera pas les gens sur le bord du chemin.
Oui.
Mais en pratique, ce que les gens ont vu, c'est quelles que soient les mesures économiques d'accompagnement de la crise, la peur de perdre un emploi et d'être, j'allais dire, dans des situations insurmontable, le fait de ne pas avoir vraiment d'avenir. Mais ce qui manque dans le discours politique, qui à certains égards est rassurant parce qu'il y a quand même des mesures qui sont prises, c'est un projet et une certaine forme d'espérance. Un après.
Le fameux cap.
Voilà, un après. Alors il y a des gens qui sont investis en disant on est en train de transformer la société, ils voient les aspects positifs.
Oui.
Je vais juste terminer sur un point, je ne vais pas mobiliser la parole, mais moi ce que je trouve extrêmement positif, c'est toutes les mobilisations qui ont eu lieu. Et on a parlé de la France des invisibles. Qui ont été extrêmement créatifs. Ça nous permet de nous réconcilier avec les valeurs de la démocratie. Et vous voyez, s'il y avait un conseil à donner aux dirigeants aujourd'hui, démocratisons en quelque sorte l'approche de la pandémie. Le fait d'avoir été exclu de la décision.
Oui.
Les décisions, elles se prennent d'en haut. Elles se prennent, j'allais dire, dans des conseils un peu confinés. Ça, c'est une insulte faite à la vie démocratique. Et si on veut recréer une espèce de dynamique collective, de valeur du bien commun, comment refaire société aujourd'hui, c'est l'enjeu de fond. Pour éviter, j'allais dire, la désespérance, c'est un vrai projet politique et personne aujourd'hui l'incarne réellement. En tous les cas, c'est mon sentiment.
Catherine Toiturgie, vous êtes experte en psychosociologie. Allez-y, vous voulez réagir.
Oui, mais c'était pour aller dans le même sens. En fait, on a besoin d'une pédagogie émotionnelle. Il faut commencer à voir comment on va se rétablir ensemble. Vous voyez, là, j'ai trouvé quelque chose, parce que je fais sans arrêt des recherches. Mon héroïne, c'est toi, comment combattre le Covid quand on est enfant. On s'aperçoit, par exemple...
Et c'est un dessin d'un petit dragon, c'est ça ?
C'est un petit livret pour parler aux enfants.
Un petit livret, oui.
Pour parler aux enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'elle avait fait en Suède. L'équivalent de la première ministre avait fait... Dit, moi, je fais une conférence de presse pour les enfants. Il faut parler aux enfants. Les Anglais ont commencé à sortir quand même une étude sur les tentatives de suicide d'enfants de moins de 15 ans. Donc on voit aussi qu'il y a toutes ces personnes qu'on a citées, mais il y a toujours quelque chose d'autre.
Je me permets une parenthèse, parce que vous touchez du doigt un problème qui dépasse le cadre de notre débat, qui touche à l'école, mais c'est un sujet que j'aime beaucoup, qui est qu'on est dans une société en France où l'école est décorrélée de ce qui se passe à l'extérieur de son sein, en son sein, des établissements. Ce que vous dites est très intéressant, c'est-à-dire que l'école suédoise s'est mise au diapason de la pandémie.
Et ce qui est important, par exemple, avec ce type d'ouvrage, c'est à l'école, à l'université, faire cours sur le Covid. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une épidémie. Moi, j'ai travaillé plus de 20 ans dans l'épidémie de VIH-SIDA. C'est une épidémie qui était mise en récit, en narrativité. Là, c'est une épidémie froide. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de mise en récit. On ne sait même pas qui ils sont. Il n'y a pas de témoignages, etc. Donc, pour les enfants, d'ailleurs, comme dans cet ouvrage, ils s'endorment le soir, mais ils sont complètement insécurisés. Il y a même un texte du CDC qui dit, pour les enfants, si vous sentez qu'ils sont trop anxieux, il faut faire quelque chose.
C'est vrai que c'est un élément hallucinant quand on le regarde rationnellement, professeur Antoine Pellissolo. C'est-à-dire qu'à l'école, moi j'ai des enfants, on ne parle pas du tout du Covid. Les enfants ont des masques, les enfants se lavent les mains, les enfants mettent du gel hydroalcoolique, donc ils voient qu'il y a un changement qui s'est opéré, mais on n'en parle pas, on ne libère pas la parole.
Alors c'est l'effet de sidération, je crois malheureusement, qui touche tout le monde, parce que même si ça commence à durer depuis quelques mois, personne n'avait le mode d'emploi à l'avance, et les
il faut aussi quand même saluer les enseignants qui font un travail très difficile en ce moment.
Bien sûr.
Et c'est
bien
vraiment,
sûr.
C'est vraiment
c'est
une
vrai que d'avoir un projet pédagogique qui tout d'un coup passe en mode Covid, où une fois par semaine, on explique comment ça fonctionne une maladie, quels en sont les risques, comment s'en prémunir.
Alors ça, c'est un des défauts qu'on a en France, c'est le manque d'éducation à la santé, encore plus à la santé psychique, évidemment, ce qui est mon domaine, mais c'est clair qu'il va falloir renforcer tout cela. Alors, et comme vous disiez, on n'en parle pas dans le programme, mais les enfants, si vous en avez, ils parlent que de ça aussi, parce qu'évidemment, ils sont touchés et ils auraient envie d'en parler. Évidemment.
Alors, nous, on a développé juste des initiatives. L'espace éthique de la région Île-de-France travaille avec des enseignants. Hmm. On a un module de formation d'abord des enseignants aux enjeux sociétaux. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est qu'on touche à l'intime quand on parle du Covid. Ce n'est pas uniquement une approche biologique en termes de chiffres. Ce qui a été aussi très dangereux, c'est un discours quantitatif. Mmh. Alors que derrière, il y a des personnes, il y a eu des deuils, tout ça a été enfoui. Il faut que la parole, et c'était très juste ce qui a été dit, apparaisse. Mais juste une observation par rapport à l'école, il y a maintenant des défis importants. Il va y avoir les tests dans les écoles. Comment les jeunes vont adhérer ou pas. Et quand on parle des écoles, entre les écoles dans un quartier assez privilégié et les écoles dans des quartiers où il y a les gens qui ont déjà la vulnérabilité, et on l'a vu, la fonction républicaine de l'école, quand il y a eu le confinement et des jeunes ne pouvaient plus se nourrir parce qu'ils n'allaient plus à l'école. Tous ces éléments bout à bout montrent la responsabilité d'investir ce champ.
Alors j'ai une question très terre à terre à vous poser, professeur Emmanuel Hirsch. La fin des poignées de main, la fin des bises, la fin du fait de se prendre dans les bras, ça ne paraît rien, mais est-ce que ça aussi, ça joue?
C'est pathétique. Vous voyez, moi je vais régulièrement dans les EHPAD, dans mes fonctions. Ce qui a été le plus traumatisant pour les familles, c'est de ne plus pouvoir caresser, de ne plus pouvoir toucher, vous savez, le contact, y compris pour les professionnels. Donc, c'est toute cette symbolique, c'est tout cet attachement, c'est toute cette manière de témoigner à l'autre qu'on est présent d'une manière charnelle, physique, puisque c'est malheureusement ça qu'on doit mettre un peu en parenthèse.
Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra retrouver
De toutes les façons, déjà, on voit le sens, et c'est ça qui est intéressant aussi, la valeur de la relation. Vous voyez, ça m'a beaucoup frappé, moi je regarde les aspects plutôt positifs. Pendant des années, on nous a dit l'EHPAD, c'est le mouroir. On a vu que c'était un lieu de vie où il y avait des projets et que tout ça a été important. Donc je vois qu'on va reconquérir, comme l'économie, j'espère, va reconquérir un espace. On va reconquérir d'abord des lieux de sociabilité. Juste un point qui m'a frappé, on n'avait pas le sens de la valeur du petit commerce, du café, enfin de ces lieux qui sont importants, de la culture.
Oui.
Et là, je pense qu'il y a une envie. On a fait l'expérience de ce qui nous était indispensable.
Oui.
Eh bien, on va sortir, à mon avis, de cette crise, je l'espère, en ayant cette intelligence. Et ce que je regrette, je termine sur ce point.
Ce qui est important, c'est qu'on n'ait pas une amnésie collective dans
six mois. Oui, non, mais on ne l'aura pas. On l'aura pas. Et le malheur, si on veut, et je le dis clairement, c'est qu'il n'y a pas cette intelligence du politique. Vous voyez, dans les arbitrages des choix, il aurait fallu être plus judicieux. Qu'est-ce qui importe ou pas dans une situation de crise? S'il n'y a pas des lieux où on peut en parler, s'il n'y a pas des lieux où on peut se projeter, s'il n'y a pas des artistes qui nous apportent de la culture, qui nous apportent de la beauté, on est effectivement dans le trou et on n'a plus qu'à aller finalement voir le psychiatre. Et moi, je pense qu'il faut une approche aussi politique et qu'on a tout un ensemble d'atouts. On a une approche finalement très religieuse, très compassionnelle et très cathartique finalement de la pandémie.
Alors, c'est un masochisme d'une certaine manière. Je voudrais qu'on dise, professeur Antoine Pellissolo, encore un mot, vous êtes psychiatre et chef de service, je voudrais qu'on dise encore un mot des jeunes, pas des tout petits là, mais des plus jeunes, parce que là aussi j'ai découvert les chiffres qui sont assez éloquents. Un état dépressif touche un quart de la jeunesse aujourd'hui dans les grands chiffres qui circulent et qui aura, nous dit-on, des répercussions, vous allez me répondre, post-confinement. Et on découvre que ces jeunes aussi ne sont pas assez accompagnés. Je ne savais pas, mais la France accuse par exemple un retard considérable dans l'accompagnement des jeunes. Aux États-Unis, on compte un psychologue pour environ 1600 étudiants. En France, c'est un pour 30 000. Comment est-ce que ces jeunes vont-ils se remettre de tout ça?
Alors, on va positiver et penser que ça va être possible, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ils cumulent les facteurs de, à la fois d'isolement, de stress, de perturbation dans leur scolarité depuis déjà, c'est la deuxième année. Ils ont des cours à distance. C'est très compliqué de suivre des cours à distance quand on n'est pas motivé par les enseignants qui vous relancent. Ils ont perdu leurs liens sociaux là, et on les a accusés d'en avoir trop pendant l'été. Donc, c'était encore une cause de culpabilisation.
Et comment on peut les accompagner pour tous les parents qui nous écoutent?
Alors, je crois que vraiment, les accompagner, au moins leur laisser la parole, ça me paraît évident, parce que il y a cette espèce de repli sur soi. Donc, leur donner la parole, et ils en ont besoin, ils ont envie de la prendre. Créer des conditions d'échange. pour toute la population. Je pense que les aides viennent beaucoup de l'entraide, justement, de l'entraide, de la solidarité. Et je pense qu'il faut soutenir les associations, par exemple, hein, les associations qui viennent aider les familles, qui viennent aider les jeunes. Alors, elles sont souvent à l'arrêt, malheureusement, pour des raisons sanitaires. Mais c'est sûrement le levier majeur, je pense, pour redonner du souffle et redonner des perspectives. Parce que la grande souffrance des étudiants, ils disent, on travaille en ce moment, on ne sait pas pourquoi, on n'aura pas de boulot, notre diplôme, on ne sait pas ce qu'il va valoir. Enfin, il va falloir être très, très présent sur cet accompagnement.
Catherine Touret-Turgy, je disais tout à l'heure avec un peu de malice, est-ce qu'on peut donner des clés pour les gens qui nous écoutent pour garder une positive attitude et essayer de redresser la barre quand on est dans un état dépressif ou déprimé, tout du moins?
De toute façon, il y a plein de choses par rapport aux jeunes. Moi, j'ai une promotion qui arrive en janvier. L'idée, c'est de mettre dans le distanciel le relationnel et l'émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait depuis 2 mois? Eh bien, on les appelle. Ils ne sont pas encore nos étudiants, mais un petit signe, comment ça va? Puis on invente qu'on a besoin de savoir s'ils se débrouillent bien avec, je ne sais plus moi, quelle plateforme.
Donc, toujours et encore, le lien.
Le lien.
Oui.
Le lien. Et alors, quand on ouvre comment ça va? Alors là, il y a beaucoup de choses. Donc je crois que c'est ça qui est important. Peut-être qu'aussi, il va falloir inventer, peut-être parrainer des jeunes. C'est-à-dire inventer qu'on dit bien, moi je ne sais pas, moi j'ai vécu aux États-Unis, on pouvait adopter un autoroute, ça serait peut-être mieux de faire un parrainage de jeunes étudiants.
Oui.
Moi je suis volontaire, plein d'autres autour de moi. Enfin, une génération qui dit, tiens, on va parrainer des jeunes, ça ne coûte pas d'argent.
Le grand problème, c'est quand on parle des jeunes, on pense que c'est une catégorie globale. Enfin, je veux dire. Vous avez des jeunes d'abord qui sont aussi investis dans la lutte, dans le combat, et qui vivent très mal le fait qu'on stigmatise les jeunes comme des irresponsables. Et je pense qu'il faut avoir une vision aussi un peu plus fine des choses. Il y a des jeunes qui sont dans des situations plus vulnérables que d'autres, en quelque sorte plus vulnérabilisés. C'est aussi ce que nous révèle cette pandémie, qu'on le veuille pas. Si vous vous trouvez dans un environnement très dépeuplé, très défavorisé, très précarisé, effectivement la pandémie ajoute de la précarité. Et je pense qu'il y a des nouvelles solidarités à inventer.
Mais est-ce que, pour aller plus loin, Emmanuel Hirsch, est-ce que cette pandémie et la manière dont on va en sortir dans 6 mois ou dans 1 an, est-ce qu'elle va changer durablement nos normes sociales, nos liens sociaux, la façon dont on se comporte les uns avec les autres, peut-être dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais aussi cette résilience, cette bienveillance dont on parle tant en ce moment?
Moi, personnellement, je le pense.
Et dans quel sens?
Je pense qu'on va réinventer comment on fait société.
Oui.
C'est-à-dire, si on veut surmonter le long cours, parce que ce n'est pas uniquement parce qu'on aura un vaccin, qu'on va sortir de la crise. La crise, elle est endémique, elle est révélatrice de beaucoup d'autres dysfonctionnements que ceux qui ont été occasionnés par le virus. Donc on sait que c'est quelque chose de systématique. Donc je pense qu'il faut réinventer la relation à l'autre, son précieux, son prix. Et je pense qu'on a vu...
Réinventer, ça passe par quoi concrètement?
Réinventer, juste je termine là-dessus, mais je vous laisse la parole, mais notamment au niveau du politique.
Oui.
Il y a à renouveler, j'allais dire, le discours politique et créer un véritable projet, une vraie mobilisation. Mmh. Et la mobilisation, c'est pas uniquement accéder au vaccin, c'est refaire société. Alors je pourrais développer, mais je préfère entendre un petit gars qui a des éléments plus...
On est bien d'accord sur l'aspect de l'entraide, de la solidarité et du lien. Et puis il y a une thématique qui est celle des générations qui viennent et qui est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, c'est la thématique de l'environnement. Et je crois que cette catastrophe nous montre bien que l'enjeu est là, que même si ce n'est pas le climat en ce moment, mais c'est une pandémie qui a un rapport quand même avec l'environnement. Et donc, il va falloir que les générations qui viennent, qui en sont déjà convaincues, on les aide et qu'on se transforme encore plus pour la préservation de notre environnement. Et ça, c'est des valeurs qui vont quand même pouvoir être, des motivations pour tout le monde et notamment pour les plus jeunes.
Catherine Touret-Turgy, même question. Comment est-ce qu'on fait société demain et qu'on se reconstruit tous ensemble, après ce grand blues qu'on aura connu et dont certains mettront sans doute, professeur, vous confirmez, du temps à se remettre?
Je pense que d'abord, on va être en rémission avant d'être en rétablissement. C'est-à-dire, quand on dit que ça va être fini dans 6 mois, c'est faux. Quand on prend la crise des impacts humains dans les catastrophes naturelles, c'est 18 mois à 3 ans après la résolution, 1, de la crise sanitaire, 2, de la crise économique. Donc déjà, il faut anticiper le fait que les choses qui se sont passées, je ne sais pas, moi, imaginez concrètement, je vais vous donner une situation, quelqu'un qui a divorcé pendant le confinement, c'est quand même 7%. Après, il faut qu'il s'en remette. Quelqu'un qui a perdu son travail, il faut qu'il s'en remette. Mais tout ça, ça veut dire une reconstruction de soi, une transformation. Donc, un accompagnement. 2, avoir vraiment un dispositif de rétablissement. Les rétablissements, c'est sur plusieurs dimensions. Et ça dure beaucoup plus longtemps que l'arrêt... brutal comme ça et dur, ça va prendre du temps, mais grâce au temps, et là on pourrait aussi reprendre ce qu'a dit Emmanuel, ça va nous donner aussi accès à d'autres temporalités.
Professeur.
Ou alors un petit mot qui est plus sur le plan, je dirais, sociétal et des soins qu'on peut apporter aux personnes qui sont en souffrance. Parce que le gouvernement l'a souligné, mais nous, on va être obligé de dire on n'a pas, nous, les moyens, en tant que service de soins psychiatriques et professionnels, d'aider suffisamment avec les moyens qu'on a. Mmh. Et je crois que, il serait bon que les pouvoirs publics actent cette situation.
J'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience là qui s'opère depuis quelques semaines.
On est sur une pénurie d'années, oui, mais est-ce que les moyens vont suivre ? Parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, malheureusement.
Ce que vous dites est d'une grande justesse.
Le mot de la fin,
oui, on ne peut pas médicaliser la réponse sociétale à cette crise. C'est-à-dire, on ne va pas apporter le soutien psychologique comme on fait chaque fois qu'il y a une crise.
Mais il le faut quand même en
plus.
Oui,
non, il le faut. Il est essentiel pour certaines personnes, mais il ne faudrait pas qu'on surpathologise la société. Et à mon avis, il faut trouver les forces, à mon avis, dans la démocratie, dans la vie démocratique, dans le débat, dans la participation, par exemple, aux décisions sur le vaccin, par exemple. Comment, aujourd'hui, on va faire des choix de société par rapport aux jeunes, par rapport aux anciens. Donc, je dis que ça demande également une dimension culturelle et une dimension morale. Pas uniquement une dimension médicale. J'ai rien contre la psychiatrie, mais ça serait, à mon avis, un peu dévalorisant de dire que la seule réponse, alors qu'on a une telle critique de la médicalisation de la société aujourd'hui, ce serait une réponse médicale. Elle doit être sociétale et voir toutes les ressources qu'on a, nous, dans notre société.
Merci à tous les trois. Le temps qui nous était imparti est malheureusement terminé. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir dans le débat du Club des Idées.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, les archives d'Europe Soir, comme tous les soirs à la même heure, le jour où...
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Et ce soir, on vous parle d'une tradition bien française. Bonsoir Pauline Jacquot.
Bonsoir.
Nous sommes donc le troisième jeudi de novembre. C'est donc aujourd'hui la fête du Beaujolais Nouveau. Évidemment, un peu spéciale cette année, un peu morose, coronavirus oblige. Mais ce soir, nous avons décidé de retrouver un peu de convivialité grâce à une petite séance collective de dégustation sonore. Nos palais sont prêts, Pauline ? Alors ? On commence par quoi ?
Eh bien la technique, évidemment, ça me paraît essentiel. Alors petite leçon de mise en bouche avec l'acteur Jean Richard. Nous sommes en 1961.
À la vôtre, hein ?
Alors ce Beaujolais 61.
Ah !
Fameux, hein ?
Ah oui, ah ça.
Mais dites-moi Jean Richard, dans Le Médecin malgré lui, vous chantiez, je crois, un hymne à la bouteille.
Oui, alors... qu'ils sont deux bouteilles jolies, qu'ils sont deux...
Voilà, cette petite chanson à la fin n'a rien d'obligatoire. Hein. N'ayez pas peur à la maison. Mais le ton est donné, le Beaujolais Nouveau est un vin de fête, un vin convivial que l'on partage entre amis, un vin populaire que l'on aime commenter d'année en année.
J'aime beaucoup ce petit Beaujolais que nous venons de boire parce qu'il est léger, vous comprenez ? C'est un vin qui se boit facilement et on peut faire tout un repas avec ce vin-là sans être malade. C'est très appréciable.
Je l'ai trouvé un petit peu agressif, ce vin.
C'est agressif, évidemment, parce qu'il est jeune, vous savez, il n'a encore pas arrondi ses formes. C'est un bébé dans ses langes. Alors, mon Dieu, on ne peut encore pas le juger complètement. Et voyez-vous, pour moi-même, quand je suis né, je faisais 1,5 livre, maintenant je fais 100 kilos.
100 kilos. Bon voilà, c'est en tout cas un vin fruité, léger, les crus de Morgon, Fleury, Juliénas ou Brouilly. L'histoire du Beaujolais Nouveau commence en 51, quand la loi autorise les producteurs à vendre le 15 novembre. Mais cette date n'est pas très pratique, trop proche du 11 novembre, jour férié. On décide alors de changer. En 85, le Beaujolais Nouveau sera vendu à partir du 3e jeudi de novembre.
Et Pauline, aujourd'hui, comme depuis des années d'ailleurs, il y a tout un cérémonial autour du Beaujolais Nouveau.
Exactement. Très vite, l'événement a pris de l'ampleur. C'est devenu commercialement extrêmement important pour les producteurs, à l'import notamment. Le Beaujolais Nouveau est très apprécié des Japonais, des Américains, des Allemands. Et en France, nous avons pris l'habitude de ce rituel. La grande distribution, bien sûr, les cavistes, les restaurants partout en France, comme ici, dans un bistrot parisien en 2010, où la dégustation est plutôt matinale.
Premier verre, 7h25. La première année, on trouve que c'est un peu tôt. Après, on s'y fait très bien. Je ne serais pas capable de vous dire s'il sent la banane ou la fraise, mais il est agréable à boire, en tout cas. Curieusement, manger un petit salé aux lentilles à 8h du matin n'est pas une chose désagréable du tout.
Voilà, c'est un peu tôt quand même et à consommer évidemment avec modération.
Évidemment.
Alors pourquoi pas un petit salé aux lentilles, chacun ses goûts. Mais Pauline, ce patron de bistrot, parle de goût de banane ou de fraise. C'est pas vraiment bon signe ça.
Non, ça veut souvent dire en fait que le producteur a utilisé des levures artificielles. C'est ça qui donne ce goût quelquefois de cerise ou de banane. Ça aussi qui a donné pendant des années mauvaise réputation au Beaujolais Nouveau. Alors sachez qu'aujourd'hui, le Beaujolais Nouveau inspire nos voisins, un vigneron anglais particulièrement. Le vin s'appelle l'English Nouveau, cépage pinot noir à la différence du traditionnel gamay utilisé en France.
Eh bien, on en apprend tous les soirs avec vous et on a entendu que le parler des années 50 et des années 60, c'est un peu comme le Beaujolais, ça chante un peu.
Exactement.
On a perdu ce parler-là aujourd'hui, on a des accents différents, nous les Français, voilà, c'est ainsi. Merci Pauline Jacquot pour ces archives. Europe 1.